La dernière fois, alors nous continuons à essayer d'entrer dans ce problème de la vérité, essayer de bien préciser comment cette définition classique de saint Thomas, le point de vue de l'adéquation de l'intelligence avec la réalité, doit bien se comprendre et se préciser. En réalité, c'est l'adéquation de l'énonciation de ce que mon intelligence énonce avec la réalité. Donc ce n'est pas l'acte vital de l'intelligence, le jugement, mais c'est le contenu de cet acte vital qu'on appelle le concept, qu'on appelle l'énonciation, le concept complexe, c'est-à-dire l'énonciation, c'est proprement lui qui est en conformité avec le point de vue de la réalité. Et l'intelligence est capable de faire ce dépassement du concept par rapport à la réalité, parce que justement l'intelligence saisit dans le jugement ce qui est et ne saisit pas en premier lieu son concept. Le concept n'est pas la première chose que l'intelligence saisit. L'intelligence est tout entière tournée vers le réel. Même si de fait chez des quantités de personnes qui sont dans un état de fièvre, alors à ce moment-là se regardent et sont toujours habitués à se regarder et regarder leur propre concept. C'est propre l'état de fièvre. Hein. Vous tâtez le pouls toujours pour savoir si la fièvre augmente ou diminue. N'est-ce pas ? Tandis qu'au contraire, quand vous n'êtes pas dans un état de fièvre, vous travaillez et vous êtes tout entier tourné vers la réalité que vous faites. Une intelligence saine ne s'occupe pas de savoir si elle connaît de telle ou telle manière. Elle cherche à connaître. Et elle cherche à atteindre la vérité. Ce qui n'empêche absolument pas, et surtout quand on est dans un moment de grande fièvre, de bien faire la critique pour comprendre qu'en effet, nous devons critiquer notre intelligence, réfléchir sur notre manière de connaître et par le fait même saisir ce que représente l'énonciation, le fruit complexe du jugement. Et ce fruit complexe du jugement, c'est ce que j'énonce, ce que je dis, et c'est cela qui est conforme à la réalité. Ça, j'espère que vous l'avez compris. Nous avons suffisamment insisté là-dessus. Mais ce qui est très important, c'est très important de bien saisir comment il y a une appréhension, le dépassement de l'appréhension par le jugement, ou plus exactement, jugement, appréhension, jugement, et comment le jugement a cette lucidité qui permet de dépasser ce que j'énonce pour me conformer au réel. Alors maintenant, je vais essayer de voir avec vous les diverses modalités de la vérité et du jugement. Ça, c'est très intéressant, c'est très long, hein? Alors on ne va pas faire ça trop longuement, mais ce serait très intéressant à bien voir, parce que ça nous ferait comprendre toutes les possibilités qu'il y a d'erreur. Chaque fois que vous découvrez la vérité, vous découvrez les possibilités d'erreur. Et alors, comprenez, ce premier moment où je saisis la vérité, en voyant la conformité de ce que j'énonce, ceci est avec l'existé de ceci, du ceci. Ceci est, conformité de ceci est que j'énonce. C'est ça que je dis, et c'est ça que j'énonce, avec l'existé du ceci, qui est le réel, la réalité, et qui est la mesure. Puisque conformité de ce que je dis avec la réalité. Eh bien, cette relation de conformité, une relation de conformité. Voilà la vérité, si c'est adéquat ou pas. Si donc il y a la vérité, il y a donc possibilité d'erreur. Chaque fois qu'il y a acte, il y a potentialité. Et je saisis la potentialité, la possibilité d'erreur. Où se situe la possibilité d'erreur? La possibilité d'erreur, c'est justement que mon énonciation, ce que je dis, n'est pas conforme au réel. C'est ça le propre de l'erreur, n'est pas conforme. Vous voyez, c'est une adéquation, donc c'est quelque chose, il n'y a pas du plus et du moins dans la vérité là. C'est conforme ou pas conforme? Vous n'avez pas dit que c'est plus ou moins conforme. Non, c'est conforme ou pas conforme. Ce que je dis est conforme à la réalité, c'est est.
Que votre est soit est.
Et ne dites pas que votre oui soit oui. N'est-ce pas, comme les mauvaises traductions. Parce que c'est tout à fait faux de dire ça. Mais vous voyez, parce que vous faites votre vérité par rapport à vous-même. Votre oui,
c'est ce que vous dites. Votre est, c'est la réalité.
Tout à fait différent. Et c'est très important. Que votre non soit non, ça oui. Parce que le non, c'est... c'est nous. Vous voyez?
C'est ça qui est très joli.
N'allez pas dire que votre non soit conforme à non-être. Mais que votre non soit non.
Ça, c'est très très juste.
Mais pas que votre oui soit oui. Mais que est soit est. C'est très très fort. C'est la réalité qu'on affirme.
Alors, vous comprenez qu'il faut saisir dans la vérité cette conformité du ceci avec l'existé, avec est.
Ceci est. Je vous dis que ceci est. Donc, c'est la conformité avec la réalité. Et là, il y a adéquation. Alors, la possibilité d'erreur vient de quoi?
C'est qu'il y a possibilité pour moi de m'arrêter à mon énonciation, de faire une fausse énonciation qui ne soit pas conforme à ceci est.
J'ai la possibilité, puisque de fait, c'est mon œuvre. J'ai là donc la possibilité de m'arrêter à ce possible, il est mesurable. L'énonciation est mesurable par est qui est la mesure. Donc c'est le mesuré. Et le mesuré peut très bien, lui, avoir du plus et du moins. Je peux me tromper.
Je peux me tromper dans le ceci, n'est-ce pas? Parce qu'il peut être plus ou moins
exact, plus ou moins fort. Donc il y a possibilité d'erreur. La possibilité d'erreur provient tout simplement de mon intelligence qui énonce mal, qui n'énonce pas jusqu'au bout, qui ne rejoint pas la réalité. Donc,
il y a le lien entre les deux, le nom et le verbe.
Puisqu'il y a composition, toute composition peut impliquer quelque chose qui n'est pas exactement dans la composition. S'il n'y avait pas de composition, si c'était quelque chose d'indivisible, il n'y aurait pas possibilité d'erreur. Mais puisqu'il y a composition, il y a possibilité d'erreur. La composition peut très bien mal se faire.
Donc, je n'insiste pas. Ici, c'est simplement pour vous montrer que chaque fois qu'il y a affirmation, il y a en même temps possibilité, chaque fois qu'il y a vérité, il y a possibilité d'errer. Deuxième
jugement d'existence. Ce n'est plus le jugement d'existence.
C'est le jugement qui porte sur les principes. Les principes propres. Je crois que c'est le jugement nécessaire. Là aussi, il y a une certaine évidence. Quand je suis en face de la réalité, il y a une certaine évidence de l'existé de cette réalité. Mais il y a une évidence aussi quand mon intelligence saisit un principe propre.
Alors, prenons un principe propre. Au plan philosophique, hein, parce que je ne saisis des principes propres qu'en philosophie. Je ne saisis pas de principes propres dans les sciences mathématiques ou les sciences qui dépendent des mathématiques.
Je saisis des lois. Il faut bien distinguer. Les lois ne sont pas des principes propres.
Il faut donc là tout de suite comprendre, autrement vous allez patauger comme misérablement. Alors il faut quand même bien distinguer tout de suite la loi du principe propre.
La loi, vous savez bien ce que c'est saisir un lien entre antécédent et conséquent. Un lien de nécessité entre les deux. Pour que ce conséquent passe, il faut poser l'antécédent. Si le conséquent est posé, l'antécédent est posé nécessairement. Alors il y a un lien de nécessité entre les deux. Et c'est ce lien de nécessité qui est donc une relation. Une relation de nécessité entre l'antécédent et le conséquent. Et tout quoi se ramène à ça, se ramène à ce schéma, plus ou moins souple, plus ou moins absolu. Vous voyez que la loi présuppose la causalité, mais n'est pas la causalité. Toute loi présuppose une causalité. C'est pour ça que supprimer la causalité serait supprimer les lois. Vous ne pouvez plus expliquer les lois s'il n'y a pas de causalité. Mais ce n'est pas n'importe quelle causalité, c'est la causalité efficiente. Les lois reposent sur les causalités efficientes. Les lois ne reposent pas du tout sur la causalité formelle et causalité finale. La loi n'a rien à voir avec la causalité finale. Et elle n'a rien à voir avec la causalité formelle immédiate. Dans la mesure où la causalité efficiente implique une causalité formelle, la loi implique cette causalité formelle. Je dis ça à titre de réflexion, parce qu'il faudra parler de la loi, forcément. Le point de vue critique doit tout regarder. Et la loi implique un certain jugement. Mais la loi n'est pas la saisie d'un principe propre. Donc ici, je me place. La critique présuppose la philosophie. Donc si la critique présuppose la philosophie et présuppose les sciences, je peux donc tout de suite bien situer ici un second type de jugement, qui est le jugement qui énonce un principe propre, qui énonce la saisie d'une cause propre. Alors, je prends exprès ici, pour que ce soit plus limpide pour vous,
ayant tous fait de la métaphysique, vous comprenez parfaitement ce que c'est que la saisie de la cause, comme
la saisie de la substance, on va essayer de comprendre. Hein. La substance est cause selon la forme de ce qui est. En disant ça, j'énonce un principe propre. La substance est cause selon la forme de ce qui est. Cause selon la forme de ce qui est. Ajouter pour être plus précis en tant qu'être. De ce qui est comme être.
Tout à fait précis. Bon, alors vous êtes en présence d'un jugement qui a saisi un principe propre. Alors ici, je vais essayer de comprendre,
puisque ça m'intéresse au point de vue proprement critique,
quel est ce type de jugement.
Première chose à regarder.
Deuxièmement, ce jugement est-il capable de vérité? Et quel est le critère de cette vérité? Ce qui devient très difficile. Et pourtant très intéressant. Bon. Ce jugement, vous comprenez, est d'un type tout à fait différent que le jugement d'existence, ceci est.
Il le présuppose.
Je le sais, métaphysiquement. S'il n'y a pas de jugement d'existence, il n'y aura jamais saisie d'un principe propre philosophique. Jamais. Ça, on pourrait. C'est intéressant, on essaiera de le comprendre progressivement, mais c'est intéressant
de voir que tout repose fondamentalement sur le jugement d'existence.
Et il faut, au plan critique, pouvoir le montrer. En métaphysique, je ne m'en soucie pas. Mais au plan critique, il faut pouvoir montrer que si je supprime le jugement d'existence, c'est-à-dire si je le mets entre parenthèses, en disant non, le jugement d'existence, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, à partir de là, tous les principes propres de la philosophie s'effondrent.
Il n'y aura plus que des lois.
La loi n'a pas besoin pour s'établir du jugement d'existence.
Et ça, c'est la très grosse différence entre les lois
et les principes propres au point de vue philosophique. Alors évidemment, on peut très bien dire, je n'accepte pas le jugement d'existence, je n'accepte pas les principes propres, je n'accepte que les lois. Alors à ce moment-là, ne faisons plus de philosophie, faisons de la science. Soyons honnêtes. D'être honnête. La science me donne des lois, tandis que la philosophie cherche les principes propres. Si on veut bien discerner les deux, et ce qui est important, c'est très très important dans le monde d'aujourd'hui, c'est de bien discerner les deux. Donc, les sciences donnent des lois. Dans toutes les sciences différentes, et au fond, les sciences me donneront des lois diverses. Autre chose est les sciences humaines, autre chose est les sciences mathématiques. Et pour un mathématicien, les sciences humaines, ce sont des drôles de sciences. Parce que comme loi, ce n'est pas très très fameux. C'est des lois qui dépendent, ne sont pas toujours absolument appliquées. Pour le mathématicien, dans la mesure où il y a une certaine rigueur, hein, c'est intéressant de voir ça, parce qu'il y a du plus et du moins dans les lois. Laissons les lois de côté pour le moment. Regardons les principes propres. Parce que la critique est premièrement la critique de la philosophie. Premièrement, elle est ensuite la critique des sciences. Et c'est important qu'elle soit aussi la critique des sciences. Dans notre monde d'aujourd'hui, c'est capital. Parce que nous vivons dans un monde scientifique. Alors c'est capital qu'elle soit en même temps critique de la philosophie et critique de la science. Je crois qu'on ne peut pas faire une vraie philosophie aujourd'hui sans qu'il y ait constamment, vous voyez, sous la frange, pas qu'on soit des grands savants, mais qu'on comprenne la différence qui existe entre le domaine philosophique et le domaine scientifique. Si on ne comprend pas, on risquera toujours de confondre. Hein? Parce qu'on vit dans un milieu donné. Alors quand on vit dans un milieu donné, si on ne voit pas certaines choses qui sont importantes à saisir, ce que représentent les lois scientifiques, on ne saisira pas parfaitement ce que c'est que les principes propres. Et on essaiera de faire une mixture. Méta-loi. Alors, est-ce que ça existe?
Ça serait intéressant de se poser aussi. Point de vue critique, tout ça c'est des problèmes de critique.
Y a-t-il des méta-lois? Comme il y a une métaphysique, alors, est-ce qu'il y a une méta-loi? Est-ce que je peux universaliser des lois et faire des lois de plus en plus universelles, hein? Et au nom de quoi je ferai ces lois de plus en plus universelles? Alors, il s'agit de se poser tous ces problèmes-là au point de vue critique. Si on veut être lucide, savoir ce qu'on fait. Autrement, encore une fois, on avale des quantités de choses sans rien comprendre. Donc, on peut connaître beaucoup de choses pour les examens, mais on ne comprend rien du tout. C'est pas bien. C'est pas. Avoir un examen, ça ne veut pas dire qu'on est intelligent. Ça veut dire qu'on a emmagasiné certaines choses et qu'on les a bien ressorties. C'est ce qui est important, c'est de bien les ressortir. Les petits pains soient chauds. S'ils sont trop froids, ils sont un peu durcis, ça va plus. On voit que c'est vrai. Mais il faut savoir bien les ressortir au bon moment. Oui, j'avais un vieux professeur qui disait toujours aux examens, le mot. Je ne vous demande qu'une seule chose, le mot. Dites-moi le mot. Alors, n'ajoutez pas, je verrai si vous avez compris. Non, il disait le mot, ce n'est pas la peine. Il savait sortir le mot au bon moment. Évidemment, quand on a compris, on le sort mieux au bon moment. Quand on n'a pas compris, heureusement, hein, il y a un Dieu pour les examens qui fait qu'on le sort bien sans rien avoir rien compris du tout. Et alors, ah, vous avez dit le mot. On peut très bien dire le mot sans rien avoir rien compris. Ça peut tomber comme ça. L'égay, le Noël et le Toïn. Ce serait intéressant, un petit dialogue là-dessus. Bon, alors, essayons le principe propre. Voir qu'est-ce que c'est que ce jugement. Ce jugement qui est au niveau métaphysique, hein, donc qui est au niveau, à un niveau distinct que le jugement d'existence. Le jugement d'existence, il n'est pas au niveau métaphysique. Il est au niveau fondamental de ma vie intellectuelle. Quand je dis ceci est, je suis, je ne vais pas dire parce que je suis philosophe. Non. Mais c'est quand même une condition sine qua non pour être philosophe. Avoir reconnu votre propre identité. Si vous ne l'avez pas reconnu que vous existez, c'est difficile de pouvoir faire de la philosophie. Alors, il faut avoir reconnu ça. Condition sine qua non pour entrer. Je suis au seuil. Tandis qu'ici, j'entre. des portes de bronze qui s'ouvrent, Parménide. Et alors j'entre, je pénètre dans le domaine proprement philosophique. Alors que représente cette intelligence métaphysique qui juge? Et qui juge en énonçant un principe propre. La substance est cause selon la forme de ce qui est. Tu peux très bien comprendre ce que ça veut dire. Hein? Si je suis un sage, c'est-à-dire un philosophe, un ami de la sagesse, la substance, pour comprendre ça, il faut comprendre le nom de la substance. Et puis l'attribution, cause selon la forme de ce qui est. Je vois que ce jugement est un jugement nécessaire, évident. Pourquoi? Parce que ce qui est attribué, le verbe, ici qui est complexe, est attribué au nom immédiatement, sans aucun métaxu. C'est propre de ce jugement. Si je saisis ce que c'est que la substance, si je saisis la substance comme, justement, cette détermination première et fondamentale de la réalité, le noyau fondamental de la réalité, je peux dire tout de suite, la substance est cause, parce que c'est ce qu'il y a de premier, selon la forme, parce que c'est la source de toutes les déterminations, de ce qui est, parce que, justement, je suis au niveau de la réalité en tant qu'elle est, vue du point de vue de l'être. C'est donc immédiatement. Ce jugement implique une évidence. Il est évident. Il s'énonce de manière telle que le nom et l'attribut est contenu dans le nom. Il est impliqué dans le nom. J'explicite ce que c'est que la substance en disant la substance est cause selon la forme de ce qui est. Donc je suis en présence d'un jugement nécessaire. Il y a une nécessité dans cette énonciation, un jugement nécessaire. J'énonce quelque chose qui ne peut pas être autrement. C'est toujours négativement, je veux comprendre. Il ne peut pas être autrement. Si j'ai saisi ce que c'est que la substance, je dis tout de suite ça. Alors évidemment, si je n'ai pas saisi la substance, si j'ai saisi la substance au niveau purement logique, je ne dirais pas ça. Parce qu'en logique, ça n'aurait pas de sens. Mais je sais que c'est en philosophie première. Quand on émet un jugement qui énonce un principe, on sait à quel niveau on se trouve. Exactement comme un mathématicien, quand il émet un théorème, il sait à quel niveau il se situe. Exactement comme un physicien, et ainsi de suite, tous les savants. Eh bien, c'est le propre pour le philosophe. Le philosophe sait que quand il énonce ce principe, il est au niveau philosophie première. Il n'est plus au niveau de la philosophie de la nature. Il n'est pas au niveau logique. On pourra se poser la question, ce serait intéressant. Se poser la question, est-ce que la logique atteint des principes propres? Ou est-ce que la logique ne peut atteindre que des lois? Ça, c'est intéressant, parce que savoir si la logique, elle est entre la philosophie et les sciences, voyez. Elle fait un lien entre les deux. Les sciences saisissent que des lois, la philosophie, elle, saisit des principes propres. Alors, j'énonce ce principe propre et je dis, ce principe propre, il est au niveau de la philosophie première. Et au niveau de la philosophie première, ce jugement qui me permet d'énoncer cela est un jugement nécessaire qui porte sur quelque chose d'évident. Il n'y a pas de métaxu, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Entre substance et cause, selon la forme de ce qui est, c'est immédiat. Ça, c'est important de saisir ça. Donc, il y a dans ce jugement une énonciation qui s'impose à moi. Si, encore une fois, j'ai découvert ce que c'est que la substance au niveau philosophique, hein. C'est-à-dire si j'ai réalisé cette fameuse induction de la substance. Si je ne l'ai pas réalisé, alors à ce moment-là, je regarderai dans le dictionnaire Larousse, qu'est-ce que c'est que la substance? Et je ne verrai pas cette définition-là. C'est curieux. Dommage. Larousse n'a pas donné cette définition de la substance, parce que ce n'est plus une définition. Tandis que Larousse a donné des définitions au niveau logique. Parce que c'est ce qui se transmet le plus facilement. Alors il a pris la définition au niveau. Regardez tout de suite en rentrant, pas la définition de la substance dans Larousse. Vous verrez. Alors à ce moment-là, vous verrez si c'est une loi, si c'est un principe, si c'est une opinion. Et vous devez être capable de corriger le Larousse là-dessus, si vous avez fait un peu de philosophie. Parce que, autrement, vous dépendez de Larousse, donc vous êtes en dépendance de Larousse et vous mettez référence Larousse. Dans un travail de philosophie, c'est un peu mal vu comme référence. Non, j'ai déjà vu ça, alors c'est pour ça que je vous le dis, référence Larousse. Alors évidemment, ce n'est pas un instrument de travail scientifique. Voilà ce qu'on répondra immédiatement. Le corps professoral dira, ce n'est pas un instrument scientifique. Ce n'est pas avec assez de précision. Donc vous ne pouvez pas vous servir du Larousse pour faire un travail philosophique. Il faut essayer de découvrir quelque chose. Alors, si vous prenez la langue, mais comme il y a plusieurs noms, c'est déjà plus difficile, il faudra opter. Vous pourrez mettre en référence la lande. Mais on vous dira aussi, la lande n'est peut-être pas le meilleur instrument de philosophie qu'il faut faire. Mais c'est quand même un petit instrument. Bon. Alors ici, ayant fait la philosophie première, je dis la substance est cause selon la forme de ce qui est. Je suis devant un jugement nécessaire, un jugement universel. Toute substance est cause selon la forme de ce qui est. Je dis la substance, mais je peux dire toute substance. C'est indépendamment du contingent. Si je saisis la substance comme telle, je peux donc dire toute substance. Toute substance est cause selon la forme de ce qui est. Et en disant ça, j'ajoute simplement ce point de vue-là pour montrer que de fait, cette énonciation, l'énonciation de ce jugement implique une universalité absolue. Il est nécessaire. Il est évident, ce jugement. Allons plus loin. Est-ce que ce jugement implique une adhésion? Vous savez, nous avions parlé de ça à propos de l'affirmation, en disant le propre du jugement affirmatif, c'est d'impliquer une adhésion. Alors, quand je dis toute substance est cause selon la forme de ce qui est, est-ce que ça implique une adhésion? Ou est-ce que simplement une énonciation? J'énonce. Croyez ce que vous voulez, j'énonce, moi. Eh bien, quand mon jugement énonce toute substance et cause selon la forme de ce qui est, il y a une adhésion. Une adhésion qui ne porte pas sur la réalité existentielle, parce que je ne suis plus à ce niveau-là, mais qui s'y porte sur le contenu même de mon énonciation. Et c'est pour ça que je peux dire tout de suite, et ce que je vous dis est vrai. Si je n'y adhérais pas, je ne pourrais pas dire ça. J'y adhère en considérant que ce jugement que j'énonce, bien oui, il vaut la peine d'être considéré. Il était très difficile à comprendre, parce que pour quelqu'un qui n'a pas fait du tout de philosophie, bon, c'est quelque chose d'assez lointain. Mais pour celui qui a fait la philosophie et qui a fait de la métaphysique, il peut le dire. Il peut dire, j'y adhère parfaitement. Et pourquoi vous y adhérez? Parce que pour vous, ou pour nous, ça coïncide avec une vérité. Et puis, que ça dépend du jugement d'existence. C'est très curieux, ça. Alors, est-ce que l'adhésion est toujours en dépendance du jugement d'existence? Posons la question, c'est intéressant. Est-ce que j'adhère à une loi? Oui, j'adhère à une loi. Donc, ce n'est pas toujours lié à un jugement d'existence. Je peux adhérer à une loi. J'adhère à ce que je considère comme vrai. Ça, je crois, le propre de l'adhésion. L'adhésion de l'intelligence adhère à ce que je considère comme vrai. Alors, très bien, je vais revenir. Mais alors, quel est le type de vérité de cette énonciation? Nous sommes partis de cette idée, et c'est pour ça que j'ai commencé par la première type de vérité, dans un jugement d'existence, quand j'énonce ceci est vrai, dans la mesure où il est conforme à la réalité qui est énoncée. Donc, je mets en relation ce qui est énoncé avec la réalité. Quand je dis toute substance est cause selon la forme de ce qui est, j'énonce un principe. Et je dis ce principe est vrai. C'est très audacieux. Quand vous énoncez ça, vous dites c'est un principe et il est vrai. Si c'était du reste, il n'était pas vrai, ce n'est pas un principe. Ce n'est pas un principe propre au point de vue philosophique. Parce que c'est la qualité quand même d'un principe d'énoncer quelque chose qui est vrai. Et si ce n'était pas un principe qui disait quelque chose de vrai, je n'y adhérerais pas. Alors évidemment, je peux y adhérer pour des multiples raisons, parce que Aristote l'a dit, que c'est un homme intelligent, je vais me conformer à ce qu'il dit. N'est-ce pas? Et ainsi de suite. Vous voyez? Alors c'est une adhésion par mode d'autorité. Ce n'est plus une adhésion qui est réellement intellectuelle. C'est une adhésion par mode d'autorité. Il y a des quantités de gens qui adhèrent à des tas de choses par mode d'autorité. Parce que ça fait bien. Les opinions politiques, c'est comme ça. On y adhère uniquement parce que ça fait bien. Ça fait quelque chose qui est opportun à ce moment-là. Alors on y adhère. C'est une adhésion qui n'est pas intellectuelle, c'est une adhésion affective. En raison de l'opinion des gens. Ici, ce n'est pas du tout dans ce domaine-là. Parce que ce n'est pas très dans l'opinion et dans le style commun d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc, quand je prends ça, faites pas le suffrage universel. Parce que ça marcherait pas. N'est-ce pas? Ça marcherait pas du tout. On dirait, on comprend pas, donc on s'abstient. Probablement. Si les gens étaient loyaux, on dirait, on comprend pas, donc on s'abstient. Alors, je cherche quel est le type de vérité qui est impliqué là. Quand je dis toute substance est cause selon la forme de ce qui est. Le premier type de vérité, c'est la conformité au réel. Et là, l'intelligence saisit tout de suite. Quand je suis au niveau du principe, je ne saisis plus directement la réalité existante. Donc, je ne saisis plus quelque chose que je peux vérifier directement. Alors, quelle est la mesure d'un jugement quelle est la mesure d'un jugement qui énonce un principe propre en philosophie? Et ce qui est vrai de ce principe énoncé est vrai de tous les autres principes philosophiques. C'est pour ça que c'est intéressant. Quoi? L'évidence n'est pas une mesure. L'évidence, c'est le lien qui existe entre les deux. Et je vois que les deux se tiennent. L'évidence n'est pas une mesure, c'est en fonction de ce que j'ai saisi. Vous voyez comme c'est pas commode. Hein? Puisqu'au fond, c'est l'intelligence qui saisit un principe. Et le principe comme tel est saisi par l'intelligence. Et ce qui est beaucoup plus difficile, c'est que tout le monde ne saisit pas. Donc j'ai l'air d'un lunatique en disant ça. J'ai saisi ça à un moment donné, mais je sais très bien que des quantités de gens ne le saisissent pas. Mais c'était la réflexion dans laquelle revenaient tout le temps, et que reviennent tout le temps, les psychologues aujourd'hui. Vous saisissez ça au point de vue principe, mais quel est votre critère de vérité? Vous dites que ce principe est vrai, vous le dites, parce que vous l'avez saisi. Et je dis oui, parce que je l'ai saisi, je dis que c'est vrai. Cette petite parole d'Aristote, vous savez, quand il dit « un principe est indivisible », on le saisit ou on ne le saisit pas. Deux catégories de gens. Des gens intelligents qui saisissent un principe et les gens qui ne le saisissent pas. Je ne dis pas qu'ils sont autre chose. Mais ils l'ignorent. Voilà, c'est déjà mieux. Tu vois, ils l'ignorent. Ils ne l'ont pas saisi. Ils ne l'ont pas saisi. Alors, est-ce que c'est ça? C'était terrible, ça, vous voyez. Il faut saisir là, il faut saisir la difficulté que nous avons au plan critique, si nous voulons aller jusqu'au bout et être parfaitement lucides, la très grosse difficulté que nous avons. Dire que c'est évident, c'est revenir tout simplement à mon évidence. Évidemment, je l'énonce objectivement. Je peux l'expliquer, c'est sûr, je peux expliquer les deux membres de voir qu'il y a une évidence. Et donc l'attribution est impliquée dans le nom et que les deux sont impliqués. Mais Quelle est la vérité de cela? Cette vérité de ce principe a quand même la prétention de dire quelque chose de réel. Quand je dis que toute substance est cause selon la forme de ce qui est, je prétends, au plan philosophique, énoncer quelque chose de réel. Même quand je dis que seule l'intelligence le saisit, je dis que l'intelligence saisit quelque chose de réel dans la réalité de laquelle je suis parti, le ceci est. Mais ce principe n'est pas adéquat, ceci est. N'est pas du tout adéquat, puisque seule l'intelligence saisit quelque chose qui est contenu dans ceci est. C'est le quelque chose qui est contenu dans ceci est. Je ne veux pas mettre égal la substance, toute substance et cause selon la forme de ce qui est, égale ceci est. Je ne peux pas faire ça. Je suis parti de la réalité existante et j'ai saisi dans la réalité existante un aspect de cette réalité existante, le principe selon la forme, la cause selon la forme. Alors, je prétends bien saisir quelque chose de réel. C'est sûr, je prétends bien saisir quelque chose de réel. Et pas être uniquement dans une espèce de principe que l'intelligence a énoncé sous une inspiration donnée et que cette inspiration n'est valable que pour moi et pour tous ceux qui ont la même inspiration. Non. J'ai dit que ce principe était saisi par mode d'induction. Et quand je dis ce principe est saisi par mode d'induction, je veux dire que ce principe exprime quelque chose de la réalité et que toute intelligence suffisamment pénétrante peut le saisir. La philosophie première ne dépend pas d'une inspiration. Elle ne dépend pas d'une inspiration, parce que vraiment je dirais tous ceux qui n'ont pas encore eu cette inspiration en dehors. Hein. Non, elle ne saisit pas, elle dépend de la réalité que j'ai expérimentée, que j'expérimente progressivement. J'y arrive progressivement, ça oui, je dis j'y arrive progressivement. J'arrive pas du premier coup. J'arrive progressivement parce que c'est difficile d'induire. C'est la marque d'une intelligence pénétrante d'induire. Ce n'est pas la marque d'une intelligence bien informée, mais d'une intelligence pénétrante. Il y a des gens qui ont une information folle et qui n'arrivent jamais à induire. Parce qu'il y a le poids de l'information qui les empêche d'induire. Il faut quelquefois n'avoir pas trop d'informations pour pouvoir induire. C'est vrai, l'extension et la compréhension. On sait très bien que les deux lois sont différentes. Alors, quand vous avez une trop grande extension, vous n'arrivez pas à pénétrer. Alors, je ne peux pas dire non plus que la mesure de ce principe, c'est la réalité existante. Je ne peux pas dire ça. Mais comme c'est difficile. Si j'essaie de comprendre que la vérité implique nécessairement la conformité à une mesure. C'est ça la vérité, c'est la conformité de ce que j'énonce à une mesure. Là, j'énonce le principe, la substance est cause selon la forme de ce qui est. J'énonce ça. Et je sais très bien que je l'énonce. Alors, quelle est la mesure de cet énoncé? C'est la réalité. C'est la réalité, ça ne peut pas être autrement. Mais la réalité, en tant qu'elle est atteinte dans la lumière de ce principe. Vous voyez, c'est quand même pas la même chose que l'évidence. C'est la réalité en tant qu'elle est atteinte dans la lumière de ce principe. Alors vous allez me dire, vous êtes enfermé. Non, je ne suis pas enfermé. Je suis capable de comprendre la différence entre l'énonciation de ce principe, la réalité d'où provient ce principe et la lumière dans laquelle j'ai atteint ce principe. Je peux très bien faire ça, aucune difficulté. Et donc comprendre que c'est bien la réalité, mais pas la réalité simplement affirmée ceci est, mais la réalité en tant qu'elle est atteinte à travers ce principe et dans ce principe. Vous voyez, là je suis à l'abri, ça c'est merveilleux. Tous ceux qui n'ont pas saisi ce principe ne peuvent pas me déloger. C'est ça qu'il faut faire, comme quoi. Un mathématicien a le droit de dire, vous n'êtes pas mathématicien, alors ne me critiquez pas. Il a parfaitement le droit de dire ça. On va bien voir si vous êtes capable. Le philosophe a parfaitement le droit de dire ça.
Je suis en philosophie première.
Ça existe, la philosophie première. Je sais que très bien, des quantités de gens disent que ça n'existe pas. Mais j'ai parfaitement le droit aussi de dire, ça a existé, et je vous affirme, ça existe. Eh bien, si ça existe,
et que je dis que ce principe est au niveau
de la philosophie première, j'ai parfaitement le droit de dire que ce principe, saisi au niveau de la philosophie première, en effet, correspond à la réalité. Et la mesure, c'est la réalité, saisie sous cette lumière particulière. Vous voyez, c'est ça qui est très curieux. C'est que le principe apporte une nouvelle lumière sur la réalité, et donc apporte avec lui une possibilité d'une nouvelle vérité. Pas n'importe quelle vérité, celle-là. C'est une nouvelle vérité. C'est une vérité au niveau de ce principe. C'est pas n'importe quelle vérité. C'est une vérité au niveau de ce principe. Enfin, c'est tout le temps comme ça.
La loi,
elle a sa vérité au niveau de la loi. Jamais autrement. Quand je confonds la loi et la réalité, je dis c'est la vérité de la réalité. Mais c'est faux. C'est la vérité de la loi, c'est tout. De la loi que j'énonce. Et à travers cette loi, je saisis quelque chose du réel. Et le réel saisi par cette loi, eh bien, mesure cette loi. Mais dans la mesure même où le réel est saisi. Et si le réel n'est pas saisi du tout, alors il n'y aura qu'une cohérence à l'intérieur de la loi. Alors là, vous voyez, sera la cohérence. Enfin, pas l'évidence, sera la cohérence. Mais l'évidence ne peut pas être critère de vérité. Pourquoi ? Parce que l'évidence repose sur la réalité. La cohérence peut être critère de vérité. Mais pas l'évidence. La cohérence, oui. Parce que la cohérence fait justement que je suis en face d'un système de relations dont j'ai établi justement la cohérence. Et qu'en fonction de ces diverses relations, je peux dire qu'il y a une cohérence à terme. Oui. Tandis que l'évidence, non, parce que l'évidence repose sur la réalité. Elle se fonde sur la réalité. Oui. Mais c'est vrai de dire que ce principe, sa mesure, c'est la réalité vue dans la lumière de ce principe. Et ce n'est pas une pétition de principe. Parce que d'un côté, c'est le principe en tant qu'il est énoncé, et de l'autre côté, c'est la réalité vue dans la lumière de ce principe. Donc il n'y a pas de pétition de principe. Nous regarderons les autres modalités de vérité successivement. Je crois que c'est très important comme petit exercice au point de vue philosophique. Vous voyez, ça nettoie l'imaginaire. Coup de balai.